Chapitre 19. Nous nous prétendons civilisés, mais laissez aux citadins la possibilité de libérer leurs instincts, et vous verrez à quelle vitesse craque le vernis de la civilisation. En réalité, nous n'avons jamais réussi à dompter l'animal en nous. Je dirais même que plus on essaie de rétrécir sa cage, et plus l'animal devient féroce. Artus Baulstein, Précis psychanalytique de la cité unifiée. Cité unifiée de Nilopa. Drôle de fille, Ava. On peut sans doute affirmer qu'elle était jolie. De cette beauté froide des femmes originaires des pays nordiques. Glace à l'extérieur, feu à l'intérieur. Une flamme intense brillait dans ses yeux clairs. Je l'appelais Rayon X. Elle avait une façon de vous dévisager qui transperçait votre peau, vos os, vos cellules, pour vous sonder jusqu'au tréfonds de l'âme. Elle vous mettait mal à l'aise en toute occasion et donnait toujours l'impression d'avoir quelque chose à vous reprocher. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Une chose est sûre, je plains l'homme qui l'épousera. Enfin, peut-être qu'elle est restée seule. Comme moi d'ailleurs. Comme la grande majorité des fouineurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Ganesh balaya la rue d'un bref coup d'œil. La foule en colère, dont la clameur se rapprochait encore, n'allait pas tarder à surgir dans Madison Avenue. La gémine m'a confirmé que Théo est entré dans ce bâtiment, et qu'il n'en est pas ressorti. Profitons de la diversion provoquée par l'émeute. Et les gémines ont perdu sa trace, objecta Ava. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chance de le retrouver. N'oublie pas la coupure générale des réseaux. Ava exprima son agacement d'un claquement de langue. Si la panne avait vraiment touché le central des gémines, elle n'aurait pas pu te contacter. Un argument imparable. Je peux pas repartir sans avoir au moins tenté de savoir ce qui est arrivé à Théo, reprit Ganesh. Tu n'es pas obligé de m'accompagner. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? C'est pas encore fouine et ça se croit déjà indispensable. Un sourire franc éclaira le visage d'Ava d'une douceur inhabituelle. Fallait pas m'emmener avec toi? Ganesh prit conscience qu'il appréciait de plus en plus la compagnie de la stagiaire. « Allons-y, rappelle-toi, tu es une touriste qui s'est fait voler son sac. C'est pour les flics ce genre de déposition, non? On est des Parisiens, des touristes, on n'est pas censé savoir. Pendant que tu les occuperas, je demanderai à aller aux toilettes et je jetterai un coup d'œil sur les lieux. » Ava désigna l'immeuble d'un ample geste du bras. « Il y a plusieurs étages. Ils communiquent forcément entre eux. » Probabilité 76%. Ces bureaux doivent être ultra surveillés, argua encore Ava. La meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller. Ava leva sur Ganesh un regard à la fois complice et excédé. Putain, toi, quand t'as une idée en tête. On a souvent dit que le maire de Paris manquait de clairvoyance. Il y a sans doute du vrai dans cette affirmation. Je crois, pour ma part, qu'il a seulement sous-estimé le degré de corruption de la cité unifiée. La corruption, lorsqu'elle se généralise, sonne le glas de tout système démocratique. Elle trouble la vie de la cité comme la boue trouble l'eau, empêchant de discerner les mouvements de fond qui agitent la population et annoncent les évolutions, indispensables ou néfastes. Le maire de Paris était un politicien compétent, mais il avait nourri de ses propres mains le monstre qui finit par le dévorer. Jules Richebourg entra par la porte qui donnait sur son espace personnel, un minuscule réduit adjacent au bureau du maire. Alaric Brognier se demanda s'il pouvait encore faire confiance à son adjoint. Il se méfiait de tout et de tous, depuis le coup de force des municipalités de New York et de Londres. « Des nouvelles des autres cités, monsieur !» déclara Richebourg. « Les réseaux sont enfin rétablis ?»« Non, mais nous avons la visite d'émissaires. » « Qu'attendez-vous pour les faire entrer, bon sang ?» s'impatienta le maire. Sans qu'il y soit invité, Jules Richebourg s'assit dans un des quatre fauteuils de style Louis XV répartis devant le bureau en arc de cercle d'Alaric Brognier. Le maire détestait le sans-gêne de son adjoint, cet anticonformisme de façade en vogue dans certains milieux parisiens. « Il m'a semblé préférable d'en parler d'abord avec vous, » répondit Richebourg. « Ils viennent nous soumettre une date pour une assemblée générale extraordinaire. » « Nous y voilà !» Le maire se mordilla la lèvre inférieure. « Londres et New York vont invoquer la loi d'exception pour exiger le transfert du pouvoir dans les mains d'un seul homme. » L'article 72A. La coupure des réseaux m'empêche de contacter certains de mes conseils juridiques. Les spécialistes constitutionnels de Paris ne demandent pas mieux que de « ceux-là n'ont pas été placés à la mairie pour leurs compétences, mais pour services rendus », coupa Alaric Brognier. « Ils occupent des postes purement honorifiques, des bâtons de maréchal. Les mairies de Londres et New York agissent dans un cadre strictement légal et aucun des prétendus spécialistes de la mairie de Paris ne serait capable de me dire comment empêcher cette assemblée extraordinaire, ni même comment gagner du temps. Ils sont totalement incapables d'interpréter les textes de la Constitution. La coupure des réseaux n'est évidemment pas fortuite. » Jules Richebourg se redressa sur le fauteuil. « Vous voulez dire qu'on aurait saboté les matrices de la CU ? Aucun dirigeant digne de ce nom n'aurait pris le risque de neutraliser les défenses de la cité et de la laisser à la merci du monde extérieur. Les techniciens chargés du système sont en principe incorruptibles. » Le maire de Paris écarta l'argument de son adjoint d'un revers de main. « Aucun homme n'est incorruptible. J'en sais quelque chose, j'en ai corrompu un grand nombre. Nous avons perdu toute vertu. Et c'est de ça que crève aujourd'hui la cité unifiée. »
« Que comptez-vous faire, monsieur ?»«
Je ne sais pas encore. Il faut à tout prix que je parvienne à contacter quelques-uns de mes conseillers. »«
En quoi puis-je vous être utile ?»
Alaric Brognier marqua un temps de silence. « Convoquez tous les assistants que vous pouvez et essayez de trouver dans les archives de la CU un cas similaire à celui qui nous préoccupe. »«
Il nous faudrait plus d'un mois pour consulter l'ensemble des archives, » protesta l'adjoint. Et la date de l'assemblée extraordinaire, proposée par les municipalités de Londres et de New York, est dans 3 jours.
Qu'en dit l'armée ?
Richebourg décela de la lassitude, voire de la résignation, dans la voix du maire. Les informations qui ont filtré de l'état-major sont contradictoires, monsieur. Nous sommes incapables de prédire de quel côté pencheront les officiers supérieurs.
Le coup semble parfaitement monté par nos amis londoniens et new-yorkais. Je crains fort que l'équilibre des pouvoirs soit à jamais rompu et que la cité unifiée ne s'en relève pas.
Jules Richebourg se leva et se pencha par-dessus le bureau pour donner davantage de poids à ses paroles.
Nous pouvons encore trouver une parade, monsieur.
J'apprécie votre optimisme, mais nous n'avons que 3 jours.
Alaric Brognier secoua la tête avant de répéter.
3 jours.
Dois-je demander aux huissiers d'introduire les émissaires de Londres et New York ? Demanda Richebourg en se dirigeant vers la porte principale.
Avons-nous le choix ?
Ganesh s'engagea dans le couloir du 2e étage. Il n'avait trouvé aucun indice, ni au 1er, ni au rez-de-chaussée, où une secrétaire prenait la déposition d'Ava dans un box en verre.
Hey you ! What are you doing here ?
Une femme vêtue d'un tailleur strict avait surgi dans le couloir et dardait sur Ganesh un regard soupçonneux.
« Aïe, je cherche les toilettes. »
La femme se fendit d'un sourire.
« Parisian, tu n'êtes pas dans la bonne direction. Suive ce couloir et après, c'est la gauche. »«
Merci. »«
You're welcome. »
La femme tourna les talons et referma sur elle la porte de son bureau. Ganesh n'eut pas le temps d'atteindre l'extrémité du couloir.
« Demande d'ouverture du domaine crypté. »« Demande d'ouverture du domaine. » »«
Code. »
Code
WA196BX-602KY.
Espace de dialogue ouvert.
Fichez le camp, Ganesh. Immédiatement.
La même voix que d'habitude. Le même accent new-yorkais.
Je ne partirai pas avant d'avoir eu des nouvelles de Théo. Ne soyez pas obstiné. Théo est probablement mort. Tant que je n'en ai pas eu la confirmation, elles savent qui vous êtes, Ganesh.
Elles ?
Les ombres. Elles vous observent. Elles préviendront les grubs si vous vous montrez trop curieux. Elles n'hésiteront pas à vous éliminer. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de foutre le camp le plus vite possible. Qui sont les ombres ? Même si notre domaine est protégé, je ne suis pas certain qu'elles ne soient pas en ce moment en train de nous écouter. Partez. Il en va de votre vie. Les réponses viendront plus tard. Et Théo, nous ne pouvons plus rien faire pour lui. De toute façon, il était dans nos sales draps.
D'accord. Je récupère Ava et on lève le camp.
Le cryptage de ce domaine n'est plus fiable. Nous nous débrouillerons pour reprendre contact avec vous à Paris, en direct, après le coup d'État du maire de New York.
Quel coup d'État ?
L'étape suivante dans le projet des ombres. À bientôt.
Attendez.
Fin de la session. Domaine fermé.
Et merde !
maugréa Ganesh.
Je vous avais pourtant ordonné de ne pas le contacter.
Mina eut l'impression que la voix tranchante de Caton lui déchirait le cerveau.
Mais je ne l'ai pas. Ne jouez pas ce petit jeu avec moi, mademoiselle. Votre appel a laissé des traces.
Mina comprit qu'elle ne gagnerait rien à s'obstiner.
Je l'ai simplement prévenu que nous avions perdu la trace de l'homme qu'il recherchait, le fouineur Théodore Bernier. Pas de quoi fouetter un chat. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Il est équipé d'une biopuce spéciale, et l'expérience ne sera valide que si vous n'interférez pas.
Eh bien, vous n'avez qu'à me décharger de cette tâche. Vous êtes pressé de partir?
De partir, non. Mais de faire mon véritable travail de gémine. Un peu de patience, mademoiselle. Nous arrivons bientôt au terme de la première phase.
De quoi parlez-vous? La respiration de Caton résonna comme un ouragan dans le caisson d'isolation de Mina.
Vous le saurez bien assez tôt.
Une pensée fit suffoquer la gémine.
Je me demande si...
Allez au bout de votre idée?
Si je sortirai vivante de cette pièce.
Le temps de silence marqué par Caton s'éternisa.
Que vous en sortiez vivante ou non, mademoiselle, ça ne changera pas grand-chose,
finit-il par lâcher d'une voix glaciale. S'il suffit d'un grain de sable pour dérégler une mécanique, alors un homme imprévisible suffit à mettre en échec les systèmes les plus contrôlés et les plus répressifs. Mais existait-il dans la cité unifiée un seul homme capable de se lever pour défier les fossoyeurs de l'espèce humaine? Étions-nous à ce point anesthésiés et dégoûtés de nous-mêmes que nous acceptions de disparaître sans nous rebeller, sans nous émouvoir? Les guerres et les génocides de l'ancien temps nous avaient-ils préparés à cette solution finale qu'était l'extinction de l'humanité? Étions-nous désormais incapables de nous redresser et de changer le cours d'un destin qui nous conduisait tout droit vers l'abîme? Viendrait-il cet homme, ce héros, que nous appelions de tous nos vœux, nous qui n'avions plus de courage, plus d'énergie, plus d'envie?
On lève le camp,
glissa Ganesh à l'oreille d'Ava. La grub qui avait pris sa déposition dans le box s'était absentée. Les hommes et les femmes qui s'agitaient dans la grande pièce ne leur prêtaient aucune attention. Des images de foules en colère défilaient sans interruption sur des écrans suspendus. Des lignes de statistiques s'affichaient sur les fenêtres de machines qui bourdonnaient discrètement.
Du nouveau pour Théo?
Pas vraiment, mais il faut qu'on se tire d'ici. Je dois attendre, mon interlocutrice est partie vérifier quelque chose.
Ganesh lui agrippa l'avant-bras. Laisse tomber, je te dis, on fonce vers la sortie.
Ava hocha lentement la tête.
D'accord.
Elle se leva et emboîta le pas à Ganesh en direction de la sortie. Ils traversèrent sans encombre la grande salle, mais lorsqu'ils arrivèrent près de la porte, une voix les apostropha.
Halte! Ganesh Parvati!
Merde, on est repérés, souffla Ganesh.
On fonce!
Ils franchirent en courant les derniers mètres qui les séparaient de la porte. Une succession de claquements retentirent, mais une femme qui franchissait le seuil dans l'autre sens empêcha le système automatique de fermeture de fonctionner, si bien qu'ils réussirent à s'engouffrer par l'entrebâillement.
Halte!
Par là! Cria Ganesh.
Il désignait la foule qui déferlait comme un torrent furieux entre les immeubles de Madison Avenue.
« Ils ne pourront pas tirer de décharge électrique avec tout ce monde !» poursuivit-il. « Ne te retourne pas !»
Ils se jetèrent à contre-courant dans les premiers rangs de la multitude, bousculant des manifestants, soulevant dans leur sillage des bordées d'injures. Ava lança un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Ils sont derrière nous !»«
Leurs biopuces ont dû donner l'alerte !»
halta Ganesh. « Ils m'ont reconnu! Ils savent sans doute que je suis l'équipier de Théo !»
Le mieux est de s'enfoncer dans la foule.
Le batelier a dit que c'était dangereux.
Pas le choix. Avec les grubs, on n'aurait aucune chance.
Ils progressèrent avec lenteur dans le cœur braillard de la multitude, parfois bloqués par une chaîne de manifestants liés les uns aux autres. Des hommes particulièrement excités jetaient des pierres ou de gros boulons sur les vitres des immeubles. Une colonne de fumée noire montait d'un autotaxi en flammes renversé sur le trottoir.
« Don't move ! Ganesh Parvati ! »
hurla une voix dans le lointain dominant le tumulte de la manifestation.
« Je passe mon temps à cavaler dans cette foutue ville !» souffla Ganesh.
Ava lui décocha un coup d'œil dépité.
« Super ton voyage à New York ! Garde tes forces pour courir !»
L'émeute prenait un tour de plus en plus violent. Des bandes de jeunes équipées de battes de baseball ou de clubs de golf brisaient les lampadaires, les vitrines, les véhicules et les abris qu'ils trouvaient sur leur chemin.
« Putain, ils deviennent complètement dingues !»
murmura Ava.
« On prend la première rue à gauche !»
Ils parvinrent à s'extraire du magma humain et à s'engager dans la rue perpendiculaire, une artère plus étroite et sombre, déserte. Ils parcoururent une centaine de mètres avant que quatre hommes ne surgissent d'une boutique à la devanture fracassée. Deux blancs aux cheveux platines et aux traits ravinés, un brun d'origine asiatique et un métis au visage grêlé. Ils se déployèrent devant les fuyards. Deux brandissaient des couteaux, deux autres des bâtons hérissés de clous.
« Hey, where are you going ?»
lança le plus grand des deux blancs.
« Look that chick !»
glapit le métis.
« Come on, baby !»
Les deux hommes s'avancèrent vers Ava. Elle tenta de les semer, mais ils fondirent sur elle avec une vivacité de rapace et la saisirent par les bras. Individu sous accélérateur neuronano.
« Ganesh !»
cria Ava.
« It's your guy ?»
ricana le métis. Ils éclatèrent de rire et, lui tirant les cheveux, la contraignirent à s'agenouiller. Les deux autres encadraient et surveillaient Ganesh. « Demande d'autorisation de passer en mode direct contrôle. Demande d'autorisation de passer en MDC. » Ils entreprirent d'arracher les vêtements d'Ava. Elle se débattit, tentant de les frapper. Le métis lui posa la lame de son couteau sur la gorge.
« Don't move, fucking bitch !»
Demande d'autorisation de passer en MDC. Demande d'autorisation de passer en MDC. Autorisation accordée. Une énergie phénoménale se déploya en Ganesh, qui se sentit tout à coup dépossédé de lui-même, comme si un deuxième esprit se substituait au sien, plus puissant, plus déterminé.
« Stay there, guy !»
cracha l'homme brun d'une voix menaçante.
« Ganesh !»
gémit Ava. Il l'avait presque entièrement dénudé. Pendant que le métis l'obligeait à rester immobile en lui enfonçant la pointe de sa lame dans le cou, le blanc s'était relevé pour dégrafer son pantalon. Les muscles de Ganesh se tendirent. Dans le pays hors site, le danger se cache partout, principalement dans le cœur des hommes. Proverbe de l'agglomération de Villebanne. Pays hors site. J'étais foutu. Cette maudite peste noire me rongeait tout le corps. Elle avait commencé par mes mains, puis elle avait gagné mon visage, mon ventre, mes jambes. Mon front et mes joues ressemblaient à des restes de charogne pourrissant au soleil. Mes mains à des chicots d'arbres morts. Mon sexe et mes pieds à des morceaux d'écorce desséchée. J'ai réussi à cacher cette saloperie jusqu'à ce qu'elle déborde. Alors, ma femme m'a chassé de la maison. Je me suis retrouvé en compagnie de mes frères de malédiction dans la grande fosse, là où les rats eux-mêmes fuyaient notre compagnie. Que vous dire de la vie d'un pesteux? Chacun de nous tentait d'oublier qu'il pourrissait sur pied. On mangeait, on dormait, on parlait, on désespérait, on contemplait le ciel, on riait. On se moquait, on pleurait, on souffrait, comme les autres habitants de Tchon. On allait même parfois jusqu'à aimer. Nos habitations n'étaient que des trous creusés dans la terre, des tombes. Et l'hiver, quand les grands froids descendaient sur Tchon, bon nombre d'entre nous mouraient. Nous nous consolions en nous disant que nous étions débarrassés de la terreur des gueules noires. Tandis que là-haut, les maisons se fermaient à double tour à la tombée de la nuit, nous pouvions nous endormir en toute sérénité. Nous n'étions pas des victimes assez présentables pour les adorateurs de l'osphère. L'ours gris avait tendu le museau vers les morceaux d'anguilles grillant sur les braises et poussé un grognement de dépit lorsque la chaleur l'avait contraint à reculer. Assis sur une pierre, De Lune n'avait pas bougé. Il n'aurait servi à rien de fuir. Plus rapide que lui, l'ours l'aurait rattrapé et décapité d'un coup de patte. L'animal poussa un grondement de colère. De Lune garda les yeux baissés sur le sol et s'efforça de maîtriser sa respiration. Il sentait sur son épaule le contact de la fourrure aux reflets bleutés, discernait les pattes puissantes, les énormes griffes plantées dans le sol. Selon Dandera, les ours gris étaient apparus après la Grande Guerre, sans doute en provenance des forêts profondes des pays de l'Est. Plus grands, plus agressifs que leurs congénères bruns ou noirs, ils avaient semé la terreur dans les fermes isolées, dans les villages. Puis les hommes les avaient traqués et en avaient tué un grand nombre. L'ours attendit quelques instants avant de faire sauter un premier morceau d'anguille d'un coup de patte rapide et précis. De l'une demeura immobile jusqu'à ce que le grand fauve ait terminé son repas. L'intrusion de l'animal le plus dangereux du pays hors-site ne troublait pas son calme. Toute frayeur l'avait déserté. Il baignait dans une paix profonde, bercé par le sifflement du vent, le frisli des ramures, le murmure de l'eau, la respiration saccadée et les bruits de mastication du plantigrade. Il descendit profondément en lui-même, oubliant toute notion d'espace et de temps. Du flot tranquille de ses pensées, émergèrent d'abord des scènes de son enfance. Les visages bienveillants de sa mère et de Dandera, les deux êtres qu'il avait aimés. Puis, il se rappela sa première rencontre avec Naya, ses hurlements de détresse qui l'avaient alerté, la colère qu'il avait saisie lorsqu'il l'avait vue aux prises avec son agresseur cagoulé, la violence stupéfiante avec laquelle il avait planté sa serpe dans la nuque du tueur, leur fuite éperdue dans le cœur de la végétation toxique, leur découverte de la grotte aux ours, leur rencontre avec Kolb, avec Yosp. Une existence entière s'était écoulée depuis qu'il s'était aventuré dans la ville morte en quête de plantes nouvelles. La vitesse à laquelle basculaient les vies le sidérait. L'orgueilleuse civilisation humaine, dont lui avait longuement parlé Dandera, s'était crue invulnérable et s'était écroulée avec la même rapidité. Les cités unifiées, ses derniers vestiges, connaîtraient le même sort.
La seule permanence est le changement, affirmait Dandera. Comme les saisons, comme le renouvellement permanent de la nature. La seule façon pour l'homme d'apprivoiser le temps, c'est de l'accepter, d'en épouser le cours. Lorsqu'il rouvrit les yeux, l'ours gris sommeillait, allongé près de lui. Son flanc enflait et se creusait à chacune de ses respirations. De Lune admira la puissance qui se dégageait du grand animal, les nuances et la densité de sa fourrure. Il se leva le plus silencieusement possible pour ne pas le réveiller. Non qu'il redoute ses réactions, mais pour respecter son repos. L'ours n'avait pas dévoré toute l'anguille. Un dernier morceau finissait de griller sur les braises mourantes. De Lune s'en saisit à l'aide d'une brindille, le mangea, puis longea la berge à la recherche d'un calao. L'homme examinait la peau avec attention, le nez plissé. Ses vêtements de cuir et de fourrure soigneusement coupés traduisaient une aisance qui allait de pair avec sa façon de toiser ses vis-à-vis. Il avait paru surpris de découvrir une jeune femme et une moitié d'homme derrière l'étal. Puis des lueurs d'intérêt s'étaient allumées dans ses yeux clairs. « Combien pour celle-ci ? » demanda-t-il après avoir reposé la peau sur la planche servant d'étal. « J'en demande 80 tchons, » répondit Naya. Kolb lui avait conseillé d'annoncer 80 pour être sûr d'en tirer 50. L'homme eut une moue, feignit de se désintéresser des peaux et s'éloigna d'une dizaine de mètres avant de revenir sur ses pas. « Je t'en propose 30, c'est le prix juste. » « Ne jamais se précipiter, » avait dit Kolb. Le regard de Naya erra sur la petite place circulaire où Yosp et elle s'étaient installés. Le trappeur leur avait conseillé cet endroit avant de se rendre lui-même sur une autre place, un peu plus grande et probablement plus fréquentée. Face à l'étal se tenait un vendeur de lièvres, de lapins et de ragondins, enfermés dans les cages métalliques avec lesquelles il les avait piégés. Les badauds affluaient par vagues. Les hommes adressaient à Naya des regards lubriques, et les femmes des œillades assassines. Beaucoup d'entre eux avaient subi une ou plusieurs altérations génétiques. Yeux asymétriques, faces couvertes de taches brunes ou de pilosités disgracieuses, corps déformés, mains à six doigts, bosses entre les épaules ou sur les jambes. Yosp lui-même semblait tout à fait ordinaire au milieu des habitants de Tchon. « Je ne descendrai pas en dessous de 65 », déclara Naya. « C'est un bon prix pour une loutre argentée. » L'acheteur haussa les épaules, s'éloigna et revint sur ses pas quelques secondes plus tard. « Je t'en donne 40, jeune fille. Estime-toi bien payée. » Yosp s'agita dans son coin. Naya crut qu'il allait lui annoncer quelque chose au sujet de Delune, mais le petit homme ne prononça pas un mot.
se recroquevilla dans son coin et ferma les yeux.
« Pour vous, et seulement pour vous, j'accepte de descendre à 60 !» reprit-elle.
Son interlocuteur plaqua derrière ses oreilles les mèches de ses cheveux gris dérangés par le vent. Il semblait tout à coup pressé de conclure.
« 45 !»« 55 !» répliqua Naya.
« 50 !» L'homme, sûr de son fait, sortit 5 pièces de sa bourse et les aligna sur l'étal. D'un signe de la main, Naya ramassa les tions et lui fit signe qu'il pouvait emporter la peau. Il la roula, la cala sous son bras, mais ne partit pas tout de suite.
« Vous êtes trappeuse ?» demanda-t-il.
« Quelle importance ?»«
C'est plutôt rare de voir une femme seule vendre des peaux. »«
Je suis pas seule. » D'un coup de menton, il désigna Yos Pasupi.
« Vous comptez sur lui pour vous défendre en cas d'agression ?»«
J'ai tout ce qu'il faut, je n'ai besoin de personne. »
« On a toujours besoin de quelqu'un dans le pays hors site, mademoiselle. »
L'homme lui adressa un sourire vaguement menaçant, avant de tourner les talons et de disparaître entre les groupes de badauds. Elle vendit 2 autres pots avant la fin de la journée, et toujours au prix minimum indiqué par Kolb. Le trappeur revint les chercher au crépuscule. Lui avait vendu 10 pots et récolté plus de 600 tchons, une bonne journée. Il leur fallait maintenant se réfugier dans un endroit sûr avant la tombée de la nuit et l'irruption des gueules noires. Kolb avait réservé une chambre dans une auberge assez chère située à la périphérie de l'agglomération.
« Une chambre avec 3 lits et pas davantage de place. Faudra juste se serrer un peu. »«
Comment tu l'as trouvé ?» demanda Naya.
« C'est un vieil ami qui m'a refilé le tuyau. »«
Il est sûr, lui ?»«
Je pense. En tout cas, les gueules noires n'oseront pas s'en prendre à vous si je suis dans la même pièce. »
J'en suis pas aussi certaine que toi. Ces dingues sont nombreux et bien organisés. Des rats noirs filaient dans les ruelles déjà désertées par la population.
Bah, un coup de fusil les dispersera comme des moineaux. Ces gars-là, ils se croient forts en groupe. Mais y a pas plus peureux qu'eux. En tout cas, 3 pots pour une première fois et compte tenu de ton emplacement, c'est plutôt un bon résultat.
Situé de l'autre côté du rempart, l'auberge n'était pas une construction de pierre comme celle de la vieille Barline, mais une baraque en tôle dont on avait renforcé la structure par des madriers, des planches et des grillages. Elle ne proposait que 3 chambres et des repas à base de rats noirs et de gruaux d'orge, mais disposait d'une salle de bain rudimentaire, qui faisait la fierté des aubergistes, une femme plantureuse et un petit homme plus âgé, sec et tout en rides.
L'eau vient d'un puits, expliqua la femme. L'ancien propriétaire avait installé un ingénieux système d'aspiration automatique qui remplit en permanence la cuve de pierre enterrée.
« Qu'est-ce qu'il est devenu, l'ancien propriétaire ?» demanda Kolb.
La femme consulta son mari du regard.
« Il lui est arrivé malheur, » répondit ce dernier.
« Comment vous avez récupéré son auberge ?»«
On a fait une offre au chef du clan. »
La femme posa les mains sous ses mamelles débordantes comme pour soulager leur poids.
« Il nous l'a octroyée, mais il a fallu un gros boulot pour la remettre en état. »
« L'ancien propriétaire n'avait pas de famille ?»«
Tous atteints de la peste noire, une lignée maudite. »
La femme leur montra leur chambre, une pièce insalubre d'une 10 mètres carrés, où s'entassaient 3 couches de bois pourvues d'une paillasse dure à force d'avoir été tassée.
« Dit-on pour ça ?» grommela Kolb.
Au moins, on peut se laver et manger à notre faim, objecta Naya.
Se laver, si ça te chante. Manger à notre faim, ça dépendra ce qu'il y aura dans l'assiette.
Tu crois vraiment qu'on est en sécurité ici?
Le souvenir des adolescents crucifiés hantait Naya. Kolb donna un petit coup sur les planches clouées aux madriers verticaux.
Ça m'a l'air solide.
Naya demanda à l'aubergiste de la conduire à la salle de bain. Un réduit pourvu d'une cuve métallique incurvée et d'un tuyau souple, saillant de la cloison. La femme la fit patienter 10 minutes au moins avant de venir la chercher. Elle lui montra la vanne qu'il suffisait de tourner d'un quart de tour pour que l'eau arrive.
« Froide l'eau, hein? On va tout de même pas la chauffer !»
Puis, elle lui remit un linge bleu marine et se retira en précisant que le bain ne devait pas durer plus de 10 minutes.
Les possibilités de se laver à l'eau pure sont tellement rares à Tchon que tout le monde veut en bénéficier, et pas que les clients de l'auberge.
Elle désigna les tas de pierres lisses amoncelées dans un coin.
Des galets pour vous décrasser, mais frottez pas trop fort, ça pourrait vous arracher la peau.
Naya referma la porte derrière elle, tira la targette, se déshabilla,
posa ses vêtements sur la patère vissée à la cloison, s'avança au milieu de la cuve et tourna la vanne d'un quart de tour. L'eau jaillit, au bout de quelques secondes, glacée. Elle eut besoin d'un long moment pour s'habituer à la morsure des gouttes piquetant sa peau. Elle se frottait le corps avec un galet en essayant de contenir ses tremblements. Elle perçut au bout de quelques instants le poids d'un regard insistant. Quelqu'un l'observait. Elle inspecta les cloisons du regard et finit par découvrir, dans une zone sombre, un orifice de la largeur d'une pièce de ditchon. Elle le boucha avec un galet qui s'ajustait à l'orifice. Des craquements résonnèrent de l'autre côté de la cloison. Les aubergistes louaient-ils l'emplacement à des clients ou à des habitants de Tchon pour qu'ils puissent se rincer l'œil? Elle acheva de se laver malgré la fraîcheur de l'eau. Elle se sentait vulnérable, inquiète, depuis le départ de Delune. Le pistolet acheté à l'armurier Denis ne suffisait pas à la rassurer. Elle ne serait pas tranquille tant que le guérisseur, qui errait seul dans un environnement peuplé de dangers de toutes sortes, ne serait pas revenu. Elle envisagea de se rendre à l'aube à la fosse des lépreux. Peut-être le verrait-elle au milieu des silhouettes blanches et fantomatiques.
« Eh ben, t'en as mis du temps !» grommela Kolb lorsqu'elle entra dans la chambre où régnait une forte odeur de graisse.
Il a fallu que je m'habitue à l'eau, elle était glacée. Je me suis rendu compte que quelqu'un m'observait à travers la cloison.
« Ces satanés aubergistes ont sûrement des clients pour ce genre de spectacle. » À mon avis, c'est pour ça qu'elle t'a fait poireauter avant de te conduire à la salle de bain. Il lui fallait un peu de temps pour prévenir l'intéressé.
Ils sont capables de tout, y compris de nous vendre aux gueules noires, comme la vieille Barline.
Ils sont âpres aux gains, c'est sûr. Va falloir être vigilant.
Ils dînèrent dans la salle à manger en compagnie des autres clients. 5 voyageurs burinés qui venaient de l'agglomération de Villebanne, située plus au sud. Ils s'exprimaient avec un accent traînant et appartenaient au clan de l'Olump, l'un des plus puissants de leur agglomération. Ils avaient été envoyés dans le nord pour amener l'un des fils de leur chef, enlevé par une faction rivale. Armés de pistolets et de fusils, ils étaient arrivés un jour trop tard à Tchon. Les ravisseurs avaient pris la route du nord en suivant le fleuve Seine. Ils espéraient les rattraper et les ramener à Villebanne avant l'hiver. Vivants, si possible. Les ravisseurs pour que les membres du clan puissent se réjouir de leur lente agonie. Le fils du chef pour qu'eux-mêmes ne soient pas condamnés à une lente agonie. Leur conversation permit à Naya d'oublier le goût infect de la nourriture servie par les aubergistes. Elle n'aimait pas, en revanche, les regards brûlants que lui jetait l'un d'eux, un homme râblé aux cheveux bouclés et aux traits un peu lourds. Elle vérifia à 3 ou 4 reprises que le verrou de la porte était soigneusement tiré après que Kolb, Yosp et elle-même eurent regagné leur chambre. Ils passèrent une nuit relativement paisible, troublée seulement par les vociférations des gueules noires et les hurlements de leurs victimes. À l'aube, après un petit déjeuner aussi détestable que le dîner, Naya annonça à Kolb qu'elle se rendait à la fosse des lépreux pour voir si Delune s'y trouvait.
« T'as encore des pots à vendre !» maugréa le trappeur. Vous avez besoin d'argent pour descendre dans le sud.
J'en ai pas pour longtemps.
Je viens avec toi, s'écria Yosp.
Elle enfila sa veste de peau, glissa son pistolet dans l'une des poches et sortit de l'auberge, suivie par Yosp. Ils franchirent la porte la plus proche du rempart et découvrirent, de l'autre côté de la muraille, 3 croix dressées au milieu d'une place. Des rats noirs agglutinés léchaient le sang des corps des suppliciés, dont le plus jeune n'avait probablement pas 7 ans. Le clan responsable du nettoyage de l'agglomération n'avait pas encore descendu les cadavres, ni abattu les croix. Des gouttes de pluie tombaient, froides, cinglantes, préludant à une violente averse.
« Putain de monstre !» marmonna Naya. « Les heures me parlent !» cria Yosp.
« Elles te disent quoi ?» Naya s'immobilisa, espérant que le petit homme lui donnerait des nouvelles de Delune.
« Les cavaliers !»
« Les cavaliers de l'Apocalypse ?»
Ils viennent! Ils viennent!
À Tchon?
Ils tuent tout le monde! Ils brûlent les maisons!
Quand?
Je ne sais pas! Je ne sais pas!
Le vent répandait une âpre odeur de sang. Allons voir si Delune est revenue. Il n'y était pas. Du moins, ils ne le virent pas parmi les silhouettes blanches qui déambulaient dans le fond de la fosse. Quelques habitants compatissants lançaient des restes de nourriture aux lépreux qui se les partageaient avec calme.
Naya se rapprocha de l'un des groupes et, surmontant son dégoût, s'agenouilla et se pencha par-dessus la fosse.
« Vous n'avez pas de nouvelles du jeune guérisseur qui vous a parlé hier ?»
demanda-t-elle d'une voix forte. L'une des silhouettes se détacha du groupe, une femme dont le visage déformé apparaissait entre les pans du tissu sale noué autour de sa tête.
« Il nous a dit qu'il allait chercher une plante qui pourrait nous guérir, » déclara-t-elle. « Il n'est pas encore revenu.
Il ne reviendra sans doute jamais. »
Naya s'efforça de garder les yeux rivés sur son interlocutrice.
« Pourquoi dites-vous ça ?
Ils sont tous pareils. Ils prétendent qu'ils vont nous guérir, et on ne les revoit plus.
Lui n'est pas un charlatan. S'il ne revient pas, c'est que... »
Naya s'interrompit au bord des larmes. Elle admettait la possibilité qu'il soit arrivé quelque chose à Delune.
« Les cavaliers de la Côte !»
bêla Yosp.
« Ils n'ont pas d'odeur, pas de pitié. Ils viennent, ils tuent tout le monde, ils brûlent les maisons. »
« Qu'est-ce qu'ils racontent ?»
demanda la lépreuse. Naya se redressa. L'odeur qui montait de la fosse lui retournait les tripes.
« Il a des visions de l'avenir. Il dit que les cavaliers de l'Apocalypse vont bientôt débouler à Tchon. »
La lépreuse resserra les pans de tissu sur son visage.
« L'Apocalypse, ça fait longtemps qu'elle a eu lieu dans le pays Orsite. »
Le désespoir poignant de son interlocutrice déclencha en Naya un flot de pensées aussi noires que les nuages déferlant au-dessus de l'agglomération.